News FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Vendredi 27 janvier 2023, bilan et perspectives autour du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse. En compagnie de Louis Barda et Omer Mascapitolin, bonjour messieurs.
Bonsoir.
Merci d'être avec moi pour quelques minutes. Alors, Louis Barda, chargé de mission, société civile, promotion de l'égalité, de l'accès aux droits, discrimination, accès aux droits et observation de la société, défenseur des droits. On arrive au bout. Louis, vous venez d'où, puisqu'on a des intervenants qui viennent un petit peu des quatre coins de la France.
Moi, je viens de Paris, je travaille au siège du défenseur des droits. Et pour faire une phrase peut-être plus courte, mon rôle, c'est de faire le lien avec la société civile et principalement les associations sur les questions de discrimination.
Et puis nous avons donc Omer Mascapitolin, vous la présentation est plus simple, vous êtes président de la maison communautaire de développement solidaire qui se trouve en région parisienne, à Paris même ou
à Paris
dans la
même,
région.
Mais on travaille un peu partout sur le pays et l'outre-mer, parce qu'il ne faut pas oublier les départements de l'outre-mer.
Alors, peut-être quelques mots pour nous resituer un petit peu, nous présenter un peu plus cette maison communautaire.
Voilà, donc la maison communautaire, c'est une association qui œuvre sur ces questions de contrôle aux faciès, violence policière, contrôle d'identité discriminatoire. Notre différence à nous, c'est qu'on a choisi d'utiliser le droit. Donc on fait du contentieux contre l'État pour emmener l'État à prendre conscience qu'il faut réformer et changer les choses à ce niveau-là. On accompagne individuellement des victimes qui s'estiment avoir été contrôlées, pas dans les règles de l'art. Et on a un autre pendant qui est de travailler sur l'amélioration des rapports entre la police et les jeunes.
Alors justement, au niveau de votre structure, est-ce que, on l'a compris, vous menez pas mal d'actions en faveur des jeunes pour lutter contre les discriminations vécues par les jeunes? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans votre équipe?
Oui, ben justement, là, on est en train de refaire notre bureau, le conseil d'administration, et on va avoir l'entrée de 4 jeunes dans ce conseil d'administration pour prendre toute leur place et puis contribuer aussi à cette formation, à les mettre dans une démarche d'action formation pour qu'ils soient des citoyens engagés, motivés, contribuer à transformer cette société, puisque la question des contrôles d'identité est bien aussi une question de transformation sociale.
Louis Barda, la jeunesse des QPV, quartiers politiques de la ville, est un peu au cœur des discussions, des échanges, hein, puisque ce fonds d'expérimentation pour la jeunesse peut-être sera généralisé, mais pour l'instant c'était un peu plus ciblé sur cette population, des jeunes des quartiers populaires, des quartiers prioritaires. De qui parle-t-on exactement? Parce que quand on dit jeunesse, ça englobe beaucoup de jeunes d'horizons différents. Donc là, ces jeunes de quartier, est-ce que c'est aussi un tout? Ou est-ce qu'il faut aussi faire un peu des distinctions? Omer, si vous souhaitez aussi intervenir, n'hésitez pas.
Bah non, je pense que c'est pas un tout et que c'est une grande diversité. Qu'on comprenne l'entrée jeunesse ou l'entrée quartier populaire, de toute façon, ça révèle différents types de populations. Donc on ne s'adresse pas à une population type. L'idée pour nous, c'est d'essayer de s'adresser à une population qui, a priori, va être plus éloignée de ses droits et de voir comment est-ce qu'on peut essayer de les rétablir dans leurs droits. Et on a essayé de créer un dispositif, en tout cas qu'on l'a créé, une plateforme antidiscrimination.fr, justement pour essayer de faciliter les recours des populations les plus éloignées des droits, qui sont clairement pas ceux qui nous saisissent traditionnellement.
Omer, donc vous l'avez évoqué, hein, les actions de votre maison communautaire portent beaucoup sur les discriminations vécues par les jeunes face à la police, que ce soit les contrôles aux faciès, que ce soit d'autres types de harcèlement ou de violence policière. C'est une question qui revient donc souvent. La problématique de la relation police-jeune des quartiers, est-ce que c'est insoluble?
Ou est-ce non, que c'est on, pas insoluble.
Il y a une amélioration déjà? Vous avez constaté quelque part une amélioration?
On ne pourrait pas dire qu'il y a une amélioration parce qu'on a une vraie volonté politique aujourd'hui de ce gouvernement de pas faire changer les choses et d'utiliser effectivement les jeunes de quartier comme un paramètre à toutes leurs politiques et toutes les politiques qu'ils veulent mettre en place en matière de sécurité, hein, puisque vous savez, c'est l'Arlésienne qu'on nous sort à chaque veille d'élection. Et par ailleurs, et ces jeunes-là font partie de cette population à qui on dénie un sentiment d'insécurité, et par ailleurs, face à ceux qui sont censés les protéger, donc les forces de l'ordre. Je préfère effectivement les appeler les gardiens de la paix, mais en ce moment, on ne peut pas dire qu'on soit dans le comportement, je ne parle pas de l'ensemble des policiers, mais d'une grande majorité qui se comporterait comme des gardiens de la paix. Donc on est en face, évidemment, des forces de l'ordre.
Comment lutter contre cette forme très spécifique de discrimination vécue par les jeunes des quartiers populaires? Quelles sont les actions pour l'instant, les plus efficaces ou les plus courantes que vous menez?
Il y en a pas mal. Nous, on a fait le choix d'utiliser le droit, c'est-à-dire emmener les jeunes à prendre conscience qu'ils peuvent utiliser le droit. C'est-à-dire pas simplement, c'est vrai qu'on a beaucoup de discours de l'appel à l'accès au droit, mais non, nous, on veut que les jeunes consentissent que le droit peut être un outil d'émancipation pour eux-mêmes, mais aussi une façon aussi de les inviter à se mobiliser, à s'engager sur cette problématique de notre société, de notre République. Mais il y en a d'autres, ce que en dehors des mouvements lycéens, c'est vrai qu'on voit peu de jeunes dans nos manifestations, mais c'est une façon de les emmener à prendre conscience qu'ils n'ont pas à rester assignés au statut de citoyens de seconde zone, mais qu'ils doivent prendre toute leur place dans la République, puisqu'ils font partie de la République, et c'est comme ça.
Tout à l'heure, j'étais avec les membres, enfin une partie des membres du service jeunesse de la ville de Saint-Martin-d'Hères, et notamment le coordinateur jeunesse, Fawzi Ben Salem, qui nous disait que beaucoup de jeunes ne se saisissent pas des recours qu'ils peuvent avoir pour lutter contre les formes de discrimination qu'ils peuvent rencontrer, parce que la discrimination s'est banalisée année après année, décennie après décennie, et que ces jeunes finalement vivent des situations qu'ils considèrent comme courantes, pas, on va pas dire normales, parce qu'il y a toujours un petit sentiment de révolte qui se traduit parfois de manière plus ou moins violente, mais c'est vrai que voilà, il y a ce sentiment que les formes de discrimination qu'ils vivent, ben voilà, ils font avec, quoi, ça fait partie de leur vie. Louis, donc, vous êtes défenseur des droits, hein, c'est une de vos fonctions. Est-ce que vous croisez beaucoup de jeunes qui viennent justement saisir le défenseur des droits sur des questions de discrimination?
Clairement pas assez, et ça fait partie des axes d'amélioration, hein, pour nous d'arriver à toucher plus la jeunesse. Ça passe par beaucoup d'actions différentes, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail de sensibilisation, d'information dans un premier temps, hein, ce que nous on va appeler la promotion de l'accès aux droits, qui doit permettre d'informer les personnes sur leurs droits, parce qu'il y a souvent cette question qui commence: quels sont mes droits, comment les faire valoir, vers qui me tourner? Donc il y a besoin là d'informer les gens, de mêler le droit, mais aussi les sciences sociales et la recherche, pour arriver à documenter les situations et arriver à les objectiver le plus possible. Parce que quand on est sur des sujets où on est peu saisi, finalement, notre discours, qui est très lié aux saisines individuelles, il va manquer un petit peu de matière. Donc mobiliser la recherche, c'est pour nous avoir une arme supplémentaire pour essayer de documenter les choses et ensuite faire un travail de sensibilisation pour que les gens aient conscience des discriminations, de leurs mécanismes, des lieux et des façons qu'elles ont de s'implémenter, et puissent derrière recourir aux défenseurs des droits ou à d'autres associations, d'autres organismes. Hein. L'objectif pour nous, c'est vraiment de rétablir les personnes dans leurs droits et de faire en sorte qu'elles puissent identifier les voies de recours et s'en saisir quand elles le souhaitent.
Alors aujourd'hui, le projet de fonds d'expérimentation pour la jeunesse, c'est aussi le sujet au cœur des débats. Cet après-midi, un séminaire d'échanges, d'expériences, de réflexions. Et ce soir, plus des rencontres avec notamment des jeunes qui sont là. Quel regard vous portez sur ce fonds d'expérimentation pour la jeunesse et sur ses perspectives puisque c'est bilan et perspective, hein, c'est un peu les thématiques aujourd'hui par rapport à ça.
Je pense qu'on part d'un premier constat qui est qu'il manque en France une politique volontariste sur la lutte contre les discriminations et que dans ce type d'échange, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, malgré tout, avec peu de moyens, mais une vraie volonté de faire les choses, arrivent à mettre en musique des actions, mobiliser des personnes, et que ça, c'est très positif, et qu'il faut arriver à trouver la complémentarité de l'ensemble des acteurs, hein, d'un acteur de terrain qui est vraiment au contact des populations victimes de discrimination, à un acteur plus institutionnel comme le défenseur des droits. Comment on crée les conditions d'un dialogue et d'un travail ensemble, encore une fois, pour que les personnes puissent connaître davantage leurs droits, les voies de recours et les faire valoir. Donc c'est vraiment cette complémentarité, cette mise en réseau et le fait qu'il faut que tous les acteurs travaillent ensemble pour essayer de faire bouger des situations systémiques qui sont parfois profondément ancrées.
De votre côté, Omer, votre regard sur le fonds d'expérimentation pour la jeunesse.
Mais le fonds d'expérimentation, en tout cas pour cette action et ce projet qui regroupe la métropole de Grenoble, Nantes, Aubervilliers et...
Villeurbanne aussi.
Villeurbanne. C'est extrêmement important parce qu'entre guillemets, nous les éducateurs qui travaillons au contact des jeunes, quand on essaye de faire remonter ces problématiques-là auprès de nos représentants élus, par ailleurs, il y a toujours cette difficulté de ne pas être pris en compte. Et ces temps-là permettent, avec l'apport de la documentation, de la recherche scientifique, de légitimer et de valider et en même temps de tenter de donner une visibilité à ces problématiques-là pour que nous, citoyens, nous nous emparons, qu'on essaye de construire des solutions. Puisque tout à l'heure, vous disiez que les jeunes peuvent être violents. En fait, non. Et c'est toute ma crainte. C'est que si on n'arrive pas, à un moment donné, à apporter des solutions aux jeunes qui vivent ces problématiques-là, on prend le risque, à un moment donné, d'avoir des jeunes qui vont effectivement s'organiser et peut-être aller se taper le premier bleu qu'ils voient. Et ça, il faut vraiment qu'on n'en arrive pas là. Et donc là, dans cette histoire-là, il y a une question de dignité. Et si on veut renforcer le sentiment d'appartenance de nos jeunes, puisqu'on fait le constat qu'ils ne votent pas, qu'ils s'intéressent peu à la vie de la société, on doit renforcer leur sentiment d'appartenance. Et qui dit renforcer leur sentiment d'appartenance, c'est faire en sorte qu'ils se considèrent et qui se considèrent vraiment comme des citoyens à part entière et qu'on renforce leur sentiment de dignité. Il y a une question de dignité là-dedans, puisque nos jeunes, ils vivent à l'école, au collège, ils ne se regardent pas par le prisme de leur couleur. Mais c'est ce fonctionnement-là, cette société-là, cette façon, ces interactions avec la police, la façon dont on demande à la police d'agir dans les quartiers populaires, et face à cette population non blanche, mais pourtant bien française, il est nécessaire à un moment donné qu'on arrive à construire un peu une harmonie, une dynamique qui nous permet qu'on se sente pleinement citoyen de ce pays, et quelles que soient nos différences, nos origines, nos couleurs de peau. C'est, pour moi, ça, c'est extrêmement important. Il y a quelque chose de l'ordre du renforcement de la dignité. Un individu qui se sent digne est un individu qui est capable de résister, qui est capable de se mobiliser et qui est capable de partager et de faire avec les autres. Et pour faire société, il faut qu'on se sente tous dignes en tant que citoyens.
Une dernière question, donc on parle de ce soir un peu plus spécifiquement, enfin ce soir, cet après-midi et ce soir, un peu plus spécifiquement des jeunes, des QPV, donc des quartiers politiques de la ville. La politique de la ville, c'est donc quelque chose qui maintenant existe depuis une quarantaine d'années. Est-ce que quelque part ça a besoin d'un nouveau souffle, tout ce qui se fait qui relève de ce domaine de la politique de la ville, puisqu'au bout de 40 ans on pourrait dire, il faudrait qu'il y ait des effets peut-être un peu plus concrets que ce qu'on constate aujourd'hui. Alors est-ce qu'il faut un nouveau souffle, est-ce qu'il y a quelque part un constat d'échec sur certains aspects d'après vous, Louis Bardin? Ça sera au maire, non. Peu importe, l'un ou l'autre.
Très vite, hein, moi, sur le sujet, c'est plus pour moi une histoire de manque de moyens. Hein, quand je disais qu'il n'y avait pas de pilotage national, nous, on a des collectivités qui nous sollicitent pour qu'on vienne appuyer les actions qu'ils mettent en œuvre en disant on a besoin de vous pour légitimer ce qu'on fait parce qu'on n'a pas de référent au niveau national et on a besoin de ce soutien. Donc la première réponse, c'est un manque de moyens qui fait que ce qu'on observe sur le terrain, bah, c'est des dynamiques qui sont réelles et qui sont bonnes, mais qui sont souvent pas assez pérennes par faute de moyens, qui dépendent de personnes et d'engagements individuels, mais qui, voilà, il manque une politique globale qui permette de donner de la vision, de la stratégie, des moyens pour que les acteurs locaux puissent mettre en place ces actions de lutte contre les discriminations.
Et les politiques aujourd'hui, au niveau national, ils vous semblent aller dans quelque part dans le bon sens ou c'est pas leur priorité ?
On comprend que c'est pas une priorité. Nous, on appelle régulièrement à ce qu'un observatoire national des discriminations soit mis en place et qui regroupe des chercheurs, des associations, des collectivités.
Ça n'existe pas encore.
Ça n'existe pas. Et pour que ça existe et que ça ait du sens, il faut qu'il y ait des moyens qui soient donnés à cette mission. Et le fait que cette mission ne soit pas présente, ça montre qu'il y a un problème de volonté politique pour objectiver les choses et pour essayer de lutter contre cette situation.
Et donc Omer, sur la question de ces 40 années de politique de la ville ?
Moi je dirais il y a eu des bonnes choses, il y a des actions intéressantes qui ont été montées. Après, il y a peut-être un souci, qui est le souci de l'ordre de la continuité politique, c'est-à-dire quand on a un changement politique, là, on a un nouveau ministre qui arrive et qui vous fait table rase de tout ce qui a été mis en place, sachant que quand même la politique de la ville, on parle de processus sur du moyen long terme. Et quand il y a le facteur humain, quand on travaille avec l'humain, on ne décrète pas avec l'humain. Donc on progresse avec l'humain. Et mettre un stop, changer les critères, changer les modalités de financement. Et là, on voit là, par exemple, avec la loi séparatisme, voilà encore un outil mis en place par ce gouvernement et qui n'a comme objectif que de freiner ce qui peut être positif dans les quartiers politiques de la ville. Il faut peut-être arrêter de voir les quartiers politiques de la ville comme un foyer avec que des gens à problème. On a des gens qui sont en capacité de se mobiliser, de faire de l'intelligence collective, de s'organiser solidairement, mais il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité dans une stratégie de politique très à l'ancienne. Il faut un ennemi intérieur, un ennemi extérieur, et on a l'impression que nos différents gouvernements ont décidé que les jeunes, en particulier des quartiers populaires, et très particulièrement les non-blancs, seraient la source de tous les problèmes. Mais sauf que dans nos quartiers, moi je vis dans un quartier populaire, dans les quartiers populaires, vous avez, comme partout, des gens bien, des gens moins bien, des gens qui ont des difficultés, d'autres qui ne l'ont pas. C'est la réalité même d'une société. Il est nécessaire, oui, que la politique de la ville continue, puisque à partir du moment où on a mis autant de difficultés pour des habitants qui vivent dans ces espaces-là, il est nécessaire qu'on continue. Et ce qui est intéressant, et pour faire le parallèle avec ce qui se passe ce soir, nous, en tout cas ici, ces professionnels démontrent leur capacité à se poser, à pouvoir évaluer, à regarder ce qui a fonctionné, ce qui ne marche pas, et tenter d'avancer, puisque, comme le disait très clairement Martin Luther King, la solution d'un problème amène son propre problème. Donc nous, c'est cette capacité qu'on doit avoir à s'adapter, à amender les choses, mais pas tourner la tête, et en jetant systématiquement le bébé et l'eau du bain, quoi.
Merci messieurs d'avoir consacré quelques minutes de votre temps pour discuter avec nous sur News FM. Et puis bonne continuation dans vos activités et qui sait, on se recroisera probablement. Omer, on s'est déjà croisé plusieurs fois, donc peut-être que Louis, on vous recroisera aussi sur la région grenobloise. Bonne continuation et bonne fin de soirée.
Merci à vous et bonne soirée.